L'œil, appelé fenêtre de l'âme, est la principale voie par où notre intellect peut apprécier pleinement et magnifiquement l'œuvre infinie de la nature. L'oreille est la seconde, et elle emprunte sa noblesse au fait qu'elle peut ouïr le récit des choses que l'œil a vues. Si le poète sert l'intellect au moyen de l'oreille, le peintre emploie l'œil, sens plus noble. Je me bornerai à dire ceci. Qu'un bon peintre figure la fureur d'une bataille, qu'un poète la décrive et qu'elle soit présentée au public sous ces deux formes. Et tu verras aussitôt laquelle attirera les spectateurs, où se portera leur attention, laquelle obtiendra le plus de suffrages et plaira davantage. Assurément, la peinture, de beaucoup plus utile et plus belle, donnera un plaisir supérieur. Inscris quelque part le nom de Dieu et mets en regard son image, tu verras ce qui sera l'objet d'une plus grande révérence.
Pour lui, la peinture n'est pas abordée dans ce qui est devenu plus tard le phénomène de la peinture. Et c'est véritablement la description du monde. Alors,
la connaissance du monde.
La connaissance et la transmission de la connaissance. C'est pour donner aux autres la leçon sur l'observation nécessaire du réel, aussi bien des plantes, des rivières, je me souviens des passages justement où il dit comment, pour sur le paysage, comment exprimer les lointains, comment exprimer les fleuves, les mers, comment exprimer. Bon, c'est une analyse du réel, comme si la peinture était une analyse du réel. Et chose curieuse d'ailleurs, c'est évidemment justement le moment où la chose était possible. Après, ça n'est plus possible. Avant, ça n'était pas encore possible. Donc, il s'est juste coïncidé. Parce que, en fait, c'est donc véritablement comme la transposition au mieux de la réalité de cet espace qui est celui de l'espace perspectif.
(1481-1482) l'adoration des mages, dessin reporté sur bois, 246 × 243 cm, musée des offices, Florence.
Moi, je la classe vraiment comme une peinture. Moi, je suis pas étonné, mais je peux comprendre, par exemple, que l'adoration des mages, comme c'est une peinture, peut-être que quelqu'un d'autre pouvait achever.
L'adoration des mages est une peinture pour vous?
Oh oui, 100%. Ça. Moi, je l'aperçois à 100% en peinture.
Les conservateurs nous disent camailleux brun. C'est marqué sur l'étiquette.
C'est leur problème. C'est l'ensemble des volumes qui se contraposent et des formes géométriques très pures. Bon, c'est pas des formes idéales, c'est une machine pour bâtir l'espace. Un espèce de témoin de l'espace. Et c'est très intéressant, c'est déjà pour les problèmes qu'il pose au niveau de la lumière et des ombres qui dans la direction du soleil, alors que, comme toujours dans le premier plan, la lumière, on ne sait jamais d'où il vient. Deuxième chose, c'est un trouble fait parce qu'on ne connaît pas son échelle. Comme ça, mis dans l'espace, dans un espace théorique qui n'est pas celui-là de la perspective, comme chez ses contemporaines. C'est l'espace donné par les volumes.
Mmh. la qualité de l'observation, les phénomènes du regard seront tout à fait privilégiés chez Léonard. C'est-à-dire que, par exemple, dans le traité de peinture, qui, comme chacun sait, n'est pas un livre de Léonard, mais une compilation tardive, je crois, du XVIIe siècle, eh bien, on trouve un très long éloge de l'œil et un très long éloge du regard. En conséquence, lorsqu'on se trouve en face de déclarations de Leonardo sur la physique, sur la cosmogonie et sur l'anatomie, il faut bien voir que ces études sont entièrement conditionnées par cette volonté de servir, sans le trahir, l'art le plus noble qu'il y ait au monde. Il dit à un moment donné, je crois que c'est d'ailleurs dans un ensemble de textes qu'on a retrouvé assez récemment, il dit à un moment donné, peintre, si jamais tu te trompes dans ce que tu fais, si tu t'aperçois que tu te trompes, ou si quelqu'un te fait remarquer que tu t'es trompé, ne manque pas de corriger ce que tu as fait, parce que ce que tu as fait va rester et tu le porteras jusqu'à la fin de, ta vie. Donc, on peut peut-être expliquer la raréfaction des œuvres de Leonardo par cette volonté de ne manifester que ce que son art a de plus élaboré, de plus savant et de plus éternel, en quelque sorte.
Léonard dit que la peinture est le miroir du cosmos.
Peut-être de son cosmos à lui. Autrement, je ne sais pas très bien. Oui, on peut dire ça. C'est une phrase un peu vague. Je ne sais pas si elle me touche énormément parce que c'est l'image du cosmos. Je dirais que c'est l'image du cosmos vue par une personne. Ça n'est pas un miroir. Non, je dirais même que ça n'est pas un miroir du cosmos. C'est le cosmos redigéré et resservi à la sauce de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il joue un rôle indispensable. Le miroir du cosmos, comment vous avez dit le miroir?
La peinture est le miroir du cosmos.
Oui, miroir du cosmos. Bon, au sens propre, on dirait la photographie est le miroir du cosmos. La peinture, je dirais, je ne sais pas quel sens il donne au mot miroir, mais dans le sens habituel de réfléchir ce qui est, c'est bien autre chose.
Mais il dit que l'homme doit être un miroir aussi, un miroir conscient.
Oui, mais là, il faut voir ce qu'il emploie.
Miroir.
Il faut voir le sens qu'il donne au miroir. Il ne donne certainement pas le sens simplement de ce qui se contente de réfléchir ce qui est. Mais peut-être, pour moi, c'est plus une recréation de la réalité qu'un miroir de la réalité. C'est sans doute ce qu'il voulait dire.
Léonard de Vinci, à l'articulation de la fin du Moyen-Âge et de l'apogée de la Renaissance, parce qu'il participe vraiment aux deux, en étant né en 1456, il a donc 20 ans en 1476, il est encore un homme de la fin du Moyen-Âge. Bon. Et par contre, en mourant en 1519, il meurt alors que l'apogée de la Renaissance a déjà eu lieu à Rome. Bon. Eh bien, il participe donc entièrement de ce mouvement qui mène la peinture de la Renaissance à sa perfection, qui est l'idée que la peinture et la synthèse, et peut-être non pas le plus grand des arts du dessin, les trois arts du dessin, peinture, architecture et sculpture, que pratiquent Léonard de Vinci, tous les trois, mais elle est non pas le plus grand, mais elle a la synthèse de possibilités, de démonstration qu'a l'homme de sa connaissance du monde et de la maîtrise qu'il a sur le monde. En donnant une image « vraie », entre guillemets, du monde, eh bien l'homme démontre qu'il connaît et donc maîtrise le monde, et qu'en tant que tel, il est bien au centre du monde, la créature privilégiée de Dieu. Parce qu'on ne peut jamais oublier, pour Léonard ça serait compliqué, mais on ne peut jamais oublier bien sûr que dans le contexte général de la fin du XVe siècle, Dieu est toujours et partout présent.
Donc le peintre est et la peinture est un réceptacle, un intermédiaire entre le cosmos et l'homme.
Oui, tout à fait, d'autant plus que Dieu est peintre. Comme le dira le 16e siècle. Donc effectivement, d'un point de vue mental et à l'horizon de la culture de Vinci, il y a la peinture comme le plus grand des arts. Il le dit d'ailleurs dans son traité, celui qui démontre le mieux la capacité d'invention de l'homme. Et il y a cette formule Léonard qui est très belle, c'est que dans la création artistique, l'esprit de l'homme se métamorphose en une image de l'esprit de Dieu. Donc on ne peut pas aller plus loin dans l'éloge de la peinture.
L'œil est le miroir de l'âme. Il dit à un moment donné, l'œil est l'intelligence du corps. Si le corps perd sa vision et son œil, il est enfermé dans une prison et il se désespère. C'est un point important, si vous voulez, pour comprendre Leonardo, parce que c'est un point qui permet de percevoir ce qu'il pourrait en être de ce qu'on appellerait la sublimation de Leonardo. Le corps en lui-même va se défaire, va se dissoudre. Il n'y a que le regard et l'intelligence que le regard apporte qui peut lui donner une dimension susceptible de se supporter lui-même. Tout ce qui relève du corps, tout ce qui relève des humeurs est d'une certaine façon condamné, et c'est le regard, c'est le miroir de l'âme si l'on veut, c'est l'expérience qui passe par le regard qui permet de sauver l'homme de cette décrépitude. Leonardo a lu Lucrèce, c'est-à-dire il a lu le grand poète latin qui donne une description du monde comme une grande mécanique ordonnée et conditionnée par ce que Lucrèce dit, à savoir le monde est constitué avec des atomes et du vide. Donc il a lu Lucrèce, il a lu le fait que le monde matérialiste chez Lucrèce est condamné à disparaître pour renaître sous une forme d'atome, etc. Et il y a incontestablement chez Leonardo une mélancolie pour tout ce qui concerne le monde matériel. Une mélancolie qu'il sublime à travers cet éloge du miroir, cet éloge de l'œil, et bien entendu à travers la peinture. Je crois qu'on ne peut pas penser à l'œuvre peinte de Leonardo sans retenir le fait que c'est quelqu'un qui a lu Lucrèce, qui a lu Platon, qui s'oppose d'une certaine façon à la conversion que Marcille Ficin fait des idées antiques à travers une adaptation néo-chrétienne, et qui, dans cette opposition, se trouve face à deux éléments antagonistes. D'un côté, l'art et sa sublimation. L'art, d'ailleurs, à un moment donné, je crois qu'il compare, et je pense que c'est dans le traité de peinture, il compare l'artiste à Dieu. Le peintre à Dieu, n'est-ce pas? Le peintre recrée le monde comme Dieu a créé le monde. Ça n'est pas peu dire. Donc d'un côté, il y a l'art, et de l'autre côté, il y a le monde et la décrépitude. Et de l'un à l'autre, bien entendu, le sujet humain est pris dans une grande mélancolie de sa fin et de la disparition de tout ce qui le constitue en tant que corps.